6h02, nous sommes jeudi 15 août. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. C'est une autre belle journée, c'est un peu plus frais ce matin. D'abord, là, c'est qu'en périphérie, on avait du 12 degrés, 13 degrés. Et ça va grimper, par contre, avec la présence du soleil jusqu'à 25 degrés aujourd'hui. Les vents sont légers. Demain, plus de nuages, toujours 25 degrés. Et on prévoit d'ailleurs qu'en soirée, ça va se couvrir un peu plus. Et pour la journée de samedi, pour l'instant, on prévoit des averses et dimanche, du temps soleillé. Hier, c'était exactement l'inverse. On prévoyait des averses pour dimanche et du temps plutôt agréable pour le samedi. Là, c'est complètement différent. Alors, on verra comment ça va progresser. On peut présumer qu'il y aura une journée sur deux avec donc de la pluie en fin de semaine. Bon, la nouvelle la plus frappante, la plus importante ce matin, c'est bien sûr la décision du commissaire à l'éthique de blâmer le premier ministre Trudeau. Pour la deuxième fois, M. Trudeau essuie un blâme pour s'être placé en situation de conflit d'intérêts. Bref, il a violé la loi sur l'éthique et les conflits d'intérêts, l'article 9 pour être plus précis. Je vais essayer de vous résumer ça très clairement ce matin. J'ai lu le rapport hier. En gros, Justin Trudeau a tout fait, mais vraiment tout fait, et des choses qu'il ne devait pas faire pour sauver SNC-Lavalin. SNC-Lavalin fait face à des accusations de corruption lors d'activités entre 2001 et 2011, des pots de vin à la hauteur de 47 millions pour obtenir des contrats du gouvernement libyen. Et si la firme est reconnue coupable, ça veut dire que pendant 10 ans, elle ne pourra obtenir de contrat public au Canada. Alors, d'un côté, vous avez ces accusations. SNC-Lavalin fait pression sur le gouvernement Trudeau. Dès que Trudeau arrive au pouvoir, la pression commence. En disant, il existe ailleurs dans le monde, ce qui est vrai, des systèmes de réparation. Alors, des entreprises doivent verser des amendes importantes, doivent présenter un plan de redressement, changer la direction, évincer les coupables. Autrement dit, faire patte blanche et démontrer qu'on a procédé à des changements majeurs, ce que SNC-Lavalin prétend avoir fait. Donc, le dossier est entre les mains des poursuites pénales et ultimement de la ministre de la Justice, procureure générale du Canada. M. Trudeau, dans un premier temps, introduit cette notion d'accord de réparation dans le code criminel. Ça se fait, ça, à la vitesse de l'éclair. Après ça, le dossier se retrouve entre les mains, donc, des procureurs, et la décision qui est prise, c'est de ne pas accorder à SNC-Lavalin la possibilité de négocier un accord de réparation. Réponse, non. M. Trudeau n'accepte pas ça et dit et met de la pression sur la ministre. Lui directement, les gens de son équipe, son cabinet, du conseil privé. Et donc, la ministre, à partir du mois de septembre, répète tout le temps, je ne peux pas m'immiscer, ça ne s'est jamais fait, je ne le ferai pas. Et M. Trudeau répète, il y a des emplois en jeu, un siège social à Montréal, des emplois au Québec, mais ailleurs au Canada, et que si l'entreprise ne peut pas obtenir de contrat public pendant 10 ans, l'entreprise va faire des mises à pied ou encore va déménager son siège social ailleurs. Donc, la conclusion du commissaire, c'est qu'il a, de façon illégale, si on veut, abusé de son pouvoir de premier ministre pour tenter de faire fléchir la ministre de la Justice. Et on sait ce qui est arrivé. Il l'a sorti du cabinet en plus. Donc, quand vous lisez tout ça, c'est clair que M. Trudeau avait un objectif, éviter que SNC-Lavalin ait un procès. Évidemment, ce n'est pas un avantage personnel, parce que ce que la loi dit, c'est que vous ne pouvez pas vous servir de votre poste, de votre fonction, de votre pouvoir pour obtenir des avantages personnels pour des amis, pour des parents ou pour des proches. M. Trudeau n'a pas reçu d'argent d'SNC-Lavalin. On comprend qu'SNC-Lavalin a toujours gravité dans l'entourage du Parti libéral. Mais comme premier ministre du Canada, il s'est dit, il faut sauver les jobs. Premier point. Or, dans les dispositions concernant les accords de réparation, il est mentionné que l'intérêt économique ou la menace d'un impact économique négatif n'est pas un facteur à considérer. D'ailleurs, depuis que la loi permet ces accords de réparation, il n'y en a jamais eu. Il y en a eu ailleurs, dans d'autres pays, mais ici, jamais. Alors, il se fait taper sur les doigts. C'est une conséquence davantage politique. Est-ce que ça va influencer les électeurs? Est-ce que ça change votre perception de Justin Trudeau? Ça fait deux fois là, qu'il se fait taper ses doigts. Première fois, c'était quand il est parti en vacances sur l'île de Lagacane. Et là, c'est la deuxième fois. Cette fois-ci, c'est plus sérieux. C'est sûr que les partis d'opposition, évidemment, sautent là-dessus en disant « Voici le vrai visage de Justin Trudeau. Il voulait faire de la politique différemment. » Puis là, on s'aperçoit qu'il joue avec l'éthique, il n'est pas respectueux. Moi, je pose deux ou trois questions ce matin concernant SNC-Lavalin. D'abord, on ne sait pas exactement pourquoi ils ne peuvent pas négocier un accord de réparation. Deuxièmement, est-ce que c'est dans l'intérêt des Québécois puis des Canadiens que l'entreprise reste ici, que les victimes collatérales, c'est-à-dire les employés, il y a des gens de SNC-Lavalin qui m'écrivent régulièrement, qui me parlent du climat à l'intérieur de la boîte, je parle pour Montréal, là, qui n'est pas jojo, parce que les gens sentent que le tapis est en train de leur glisser sous les pieds. Il y a eu des pertes d'emplois. Autrement dit, il n'y a pas un horizon ben intéressant. On a vu aussi récemment les performances boursières de SNC-Lavalin. Ça va pas bien. Changement de direction. Alors, là, je comprends que il y a une infraction. Mais sur le fond, puis ça revient au débat qu'on a eu, est-ce que il faut protéger SNC-Lavalin. Je parle pas de protéger les ripoux, là. Je parle pas de protéger. Et le problème aussi de SNC-Lavalin, c'est que leur attitude est tellement baveuse et arrogante que tu n'as pas tellement le goût de les aider, en plus. Ils ont une attitude hautaine, condescendante. Il faut voir dans le rapport là, la façon dont ils opèrent pour obtenir ce qu'ils veulent. Là. La pression exercée auprès des ministres, auprès du premier ministre, auprès des hauts fonctionnaires puis des conseillers politiques. Il y a quelque chose d'un peu agaçant, pour être poli. Alors, c'est ça la question. Et là, vous avez le nouveau ministre de la Justice, David Lametti, qui n'a jamais dit, lui, ce qu'il ferait avec ça. Techniquement, il a le pouvoir. Il faut qu'il publie sa décision, il faut qu'il l'explique. Mais est-ce qu'on va faire ça avant des élections? Ce serait pour le moins étonnant. Deuxième chose de ce matin, c'est dans le Journal de Montréal. Ça reste une information à valider, dans le sens où la Sûreté du Québec n'a pas voulu commenter. Mais le camionneur qui est soupçonné d'avoir provoqué ce carambolage qui a fait 4 morts sur l'autoroute 440 à Laval, semble-t-il, selon des images, n'aurait pas eu les mains sur le volant et n'aurait pas regardé devant lui dans les 5 secondes précédant la collision. Je précise que ce chauffeur, Jack Meat Greywall, prétend le contraire. Prétend qu'il n'était pas au téléphone, il n'était pas en train de texter, qu'il conduisait. Mais il y a quand même des constats un peu troublants. D'abord, il y a des images qui ont été prises. Alors, une vidéo, en fait, qui a été prise dans les moments qui précèdent la collision par une caméra installée dans son véhicule, alors qu'il est en train de... C'est un chauffeur qui a une caméra dans son véhicule. Lui, il est en train de dépasser le poids lourd conduit par M. Greywall. Et sa caméra montre qu'il n'a pas les mains sur le volant. Puis que on ne voit pas en tout cas ses mains. Et il n'y a pas de réaction non plus au moment de l'impact. Il n'y a pas de freinage comme tel. Et là, il y a eu la collision. Alors, est-ce que... Je sais que depuis le début, là, on dit qu'il textait, on dit que... Puis pendant 5 secondes, il ne regardait pas. Là. Dans ce secteur... Quand même, on sait qu'il est configuré de façon dangereuse. Alors, là, en plus, les policiers tentent d'obtenir le registre téléphonique, donc pour voir ses activités avec son téléphone cellulaire. Et il paraît que Bell, qui est le fournisseur, niaise avec le POC, n'est pas pressé de fournir l'information. Et non seulement il y a un téléphone, mais paraît-il qu'il y avait une tablette sur le tableau de bord aussi. Donc, ça fait pas mal d'affaires. Tout ça reste à confirmer, je tiens à le dire, là. L'enquête se poursuit. Mais quand on vous dit que, et avec raison, on peut mettre en évidence des zones qui sont dangereuses, mal configurées, mais la conduite automobile demeure un des facteurs majeurs. Si c'est vrai que le gars était au téléphone, si c'est vrai que le gars regardait pas, si c'est vrai que le gars avait pas les mains sur le volant, excuse-moi là, mais peu importe la configuration la plus sécuritaire au monde, tu t'exposes à avoir un accident. Puis là, il a pas revu que le trafic s'était immobilisé, puis badang. Puis malheureusement, il y a 4 personnes qui ont perdu la vie. 6h13, marque les points chauds ce matin. Très bien, on poursuit la revue de presse. Parlons de ce qui se passe avec les journaux de Capital Média. Cette nouvelle que notre collègue Bernard Drainville nous a amenée, qui est une mauvaise nouvelle. C'est pas une surprise, là. Les problèmes financiers de Capital Média sont connus depuis longtemps. Et peut-être qu'il y a des journaux qui font encore un profit, mais d'autres qui perdent de l'argent. Et c'est pas un empire, là, Martin Cochon, là. C'est quelqu'un qui a récupéré les journaux de Power. Et on comprend que Power, à l'époque, voulait s'en débarrasser, là, c'était clair. Et, le marché de la presse en général, le marché des médias, est un marché qui est affecté par une baisse des revenus. Et là, il est comme, d'après ce qu'on voit, à côté sur le mur. Là, dans une lettre ouverte ce matin, il prétend, là, avec des mots très choisis, très nuancés, que la situation est sérieuse, qu'il va prendre tous les moyens pour, évidemment, sauver l'entreprise. Considère que depuis quelques années, disons que ça va mieux. Il y a eu quand même des redressements. Nous sommes fiers du chemin parcouru, mais rien n'est gagné. Vous voyez un peu le genre de cassette. La presse dit que Cogeco et Québécois s'intéressent à Capital Média. Ce que je comprends de François Legault, il ne peut pas laisser tomber des journaux régionaux. C'est clair. Il ne peut pas non plus faire une offre particulière à Capital Média. Lui, sa job, c'est pas que Capital Média survive. Sa job, c'est que les journaux survivent. Fait que si c'est pas Martin Cochon, ça sera quelqu'un d'autre. Qui sont les gens intéressés? Alors, je vous dis que la presse parle de Québécois, également de Cogeco. Je travaille pour Cogeco, je le sais pas, peut-être. Alors, ils ont peut-être un intérêt d'acheter un journal à Trois-Rivières, peut-être qu'ils ont un intérêt d'acheter un journal ailleurs, aucune idée. Mais c'est une possibilité, c'est un scénario. Et c'est de façon plus globale toute la question du financement des journaux qui est sur la table. Quand je vois des génies dire « Ah, vous savez, là, les journaux, c'est périmé, puis ils n'ont pas besoin de journalistes, le web a remplacé ça, puis le numérique. » Excusez-moi, là, mais les Facebook de ce monde là et beaucoup de plateformes carburent avec la matière première qui a été conçue par des médias traditionnels, par des journalistes à travers le monde. T'sais, dans le fond, là, le plus grand sucker de stock, excusez-moi l'anglicisme, matin, c'est Facebook. Et c'est Google avec toutes les plateformes. Disons que le web ne crée pas grand-chose de crédible, j'entends. Alors, on verra pour l'avenir, pour la suite de ça. Hier, à Québec, on a annoncé, c'est le ministre des Finances, Éric Girard, qui l'a fait, son intention de présenter un projet de loi pour encadrer les agences de crédit, comme on voit dans les autres provinces. Le Québec n'est pas en retard un peu. Je le disais au président du Mouvement des Jardins cette semaine, là. Hey, quand tu dis que tu n'as pas de carte réelle d'identité pour protéger tes infos personnelles, pour éviter, je reçois tous les jours des courriels, des gens, la Banque nationale, toutes les institutions sont victimes de ces voleurs, je dirais, nouveaux genres. Il n'y a pas une journée où je n'ai pas un courriel, M. Arcand, puis là, je peux vous parler de Capital One, je peux vous parler de Desjardins, je peux vous parler de la CIBC, je peux vous parler de la Banque Royale. Je me suis fait voler. Il y a quelqu'un qui a réussi. Puis là, je donne un exemple. Là. Ton nom, ton numéro de téléphone, coordonnées, mais pas la bonne adresse. Une nouvelle adresse, et ça a permis quand même d'ouvrir un compte frauduleux. Alors, le Québec est en retard. Le Québec n'est pas équipé. Il y a d'autres provinces qui, depuis un certain temps, font en sorte surtout, parce que quand vous regardez ça, là, les deux agences, TransUnion et Equifax, quand vous regardez les prix qui sont chargés pour surveiller votre dossier, avec une efficacité relative. C'est autour de 20$ par mois. Puis là, ça dépend des services que vous allez demander. Ça peut vous coûter combien? Je regardais le papier ce matin de Stéphanie Gramont dans la presse. T'sais, ça peut vous coûter jusqu'à 500$ par année pour surveiller. Pourquoi je paierais pour ça un prix aussi élevé? Avec des difficultés de communiquer quand c'est le temps et souvent des informations erronées dans le dossier. Alors, on fait confiance au ministre. Comme on dit, les détails sont bien importants. On verra exactement jusqu'où Québec est prêt à aller pour encadrer ça. Entre-temps, le ministre Benoît Charrette a dit « Il n'est pas question que la Société des alcools du Québec s'occupe de la consigne. » Là, c'est une autre affaire, ça. Sérieusement, là, tu sais, ce matin, je me disais, on a cette capacité de se compliquer la vie. La Société des alcools du Québec, sa présidente est venue cette semaine, elle a dit « Là, on est d'accord avec la consigne. On trouve que c'est une maudite bonne affaire. Ils ont toujours été contre. Soudainement, parce qu'on est incapable de recycler les bouteilles, en fait, le verre. Parlons des bouteilles de vin, mais il y a d'autres, évidemment, contenant de verre. Alors là, la SAQ dit oui. Puis là, il dit, ben, n'ai pas porté ça à la SAQ, on n'a pas de place. J'ai vu des photos en Europe d'appareils qui visent, en fait, qui sont conçus pour récupérer le verre. Ça ne prend pas tant de place que ça, là, contrairement à ce qu'on veut nous laisser croire, là. Et ça peut se faire. Mais là, évidemment, la SAQ ne veut pas le faire. Qui va le faire? Comment ça va se passer? Parce que j'écoutais le discours. Là, le discours, c'est de dire « Ah oui, mais là, on a une expérience pilote qui fonctionne dans un centre de tri, puis on a un projet, puis ça prend des investissements. » Je m'excuse, là. Dans les faits très clairs. Ce matin, là, mettons que vous avez bu une bouteille de vin hier soir avec votre conjoint-conjointe, là, puis vous apprêtez à la déposer dans le bac de recyclage, de la mettre dans le bac de recyclage ou ben non, de la mettre dans la poubelle directe, c'est à peu près pareil. C'est presque la même chose. Fait que, il va falloir que le gouvernement bouge quand même assez rapidement là-dessus. Je reviendrai un peu plus tard sur Woodstock. Également, ce matin, je vais vous parler de la fameuse enseigne Archambault sur la rue Sainte-Catherine qu'on avait décrochée, puis qui était au-delà là, du commerce et tout ça. Là, c'était un symbole de la rue Sainte-Catherine. Bien là, elle va être réinstallée. C'est la bonne nouvelle, vous pouvez lire ça dans Le Devoir ce matin. Elle va retrouver sa place originale. On sait qu'on l'avait enlevée, on avait évité qu'elle soit détruite, avait été protégée, la ville était intervenue. Bref, je pense qu'on l'a renippée, là, on a revampé un peu l'affaire et elle doit retrouver maintenant sa place originale. Dernier point ce matin, la mort de ce violeur de jeune fille, Jeffrey Epstein, fait encore une fois jaser. Puis vous connaissez toutes les théories un peu du complot qui circulent, mais il en demeure pas moins que c'est particulier. Le gars était suicidaire, il est retrouvé mort dans sa cellule, qu'il devait partager, mais finalement, il était tout seul. Les gardiens devaient le surveiller, ils l'ont pas fait. Puis on l'a retrouvé pendu. Et là, vous avez vu toutes les théories en disant, il y a tellement de matériel. Et lui-même avait confié ça à un journaliste, j'en connais pas mal. De petits secrets sur des individus, puis de leurs petites activités parascolaires avec des jeunes filles. Donc, il aurait pu salir pas mal de monde, et ça fait l'affaire de pas mal de monde qu'il soit décédé, c'est sûr. Et juste pour vous dire ce matin, pour ajouter au mystère, et qui va perdurer, on a pratiqué une autopsie, et selon le New York Post, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a plusieurs fractures au cou. Vous me direz, s'il s'est pendu, c'est un peu normal? Oui. Mais le pathologiste dit qu'il y a une fracture près de la thyroïde qui est davantage associée à un meurtre qu'à un suicide compte tenu de la pression qui doit être exercée. Si tu casses cet os-là, c'est une pression plus importante que pour un suicide. Alors, personne ne confirme, mais en même temps, on dit que ça peut être également un suicide. Alors, tout ça pour vous dire qu'on a un élément de plus pour ajouter au mystère. La métropolitaine, monsieur.